Dalet, en 4. Une autre, d'Avaracher, une autre explication. Toujours sur Bezot Abracha, Amar Rav Shmuel Bar Nachman, Kivan Sheba Moshe El Varech Et Israël, Moshe est venu pour bénir le clan Israël. Baou à Torah, ve'akadosh Baruch Hu levarech et Israël. La Torah et Akadosh Baruch Hu sont également venus pour bénir le clan Israël. Vezot abracha, zo à Torah, sheneemar ba, vezot à Torah, asher sam Moshe lifnei bnei Israël, asher berach Moshe, ze Moshe, isha Elokim. זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר, השם איש מלחמה, וכל כך למה? לקיים מה שנאמר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. Donc, on a apporté les psukim, on verra, pour expliquer comment la Torah et הקדוש ברוך הוא sont venus bénir le clan Israël également. Et pourquoi est-ce que ils sont venus, la Torah et Akadosh Baruch Hu sont venus? C'est pour que on ait trois bénisseurs en quelque sorte, parce qu'on a un clan qui a Hutam Shulash, que un fil qui est composé de trois filins, un filin qui est composé de trois fils plutôt. L'obimera inatek, il se rompt pas facilement. D'avoir à faire, autre chose encore, zot abracha, amar avtan chuma, im elokim lama ish, vim ish lama elokim. Revient sur ce pasouk, à partir duquel on a déduit qu'Elokim était présent dans la bracha aussi, c'est marqué Hashem. Pardon, c'est marqué dans Isha Elokim sur Moshe Rabbeinu. C'est Moshe. Ensuite, dans la suite du verset, Isha Elokim, on a expliqué que Isha Elokim, c'était Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il appelait Ish, s'il appelait Elokim? Pourquoi il appelait Elokim si on a déjà dit Ish, qui veut déjà dire Hashem ici? Et là, Beshaa Shaya Ushlach Layor Shel Mitzrayim. C'est lorsqu'il avait été jeté dans le... On parle de Moshe, évidemment. Dans le Nil égyptien, Ish ou Besha, ça c'est il était Ish ou Besha chez Nepach, les dames à Elokim. Encore un troisième davar acher, Besha chez Barach Milifne Paro, quand Moshe Rabbeinu s'est enfui de devant Paro, Ish. Il était Ish. Ou Besha'a, chez Shik'o. Et au moment où Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, en fait, ont enfoncé littéralement Paro dans l'eau, donc au moment de Kriyat Yam Souf, alors il est Elokim. D'avoir à faire. Autre chose encore, quatrième, Pesha She'ala la Rakia, quand Moshe Rabbeinu est monté au ciel, il est Ish. Ou Maou Ish, qu'est-ce que ça veut dire Ish ici? Lifnei Malachim Shekulam Esh. Eux, les Malachim sont tous Esh, ils sont un feu. Et lui, il était Ish. Ish c'est comme Esh avec un Yud au milieu, n'est-ce pas? Ou Besha Sheyarad min Harakia était Elokim. Minaïn, d'où est-ce qu'on le sait? Parce que chez Katou, Vayiru, Migesh et Elav, le clan d'Israël a eu peur de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Bonsoir. D'avoir à faire, Besha Sheyarad la Harakia Elokim. כשם שאין המלאכים אוכלים ושותים, אפו לא אוכל ולא שותה. מנין שנאמר והי שם עם השם sans manger ni boire. דבר אחר encore, מהו איש האלוקים? אמר רב אבין, מחציו ולמעלה איש, מחציו ולמטה האלוקים. De quoi? Non, non, oui, oui. Mechetsi olmata ish, mechetsi olmala elokim. J'ai dit le contraire. Excusez-moi. Voilà. On n'est pas très avancé. Alors, regardons d'abord les mefarshim standards. D'abord les Etz Yosef, pratiquement à la hauteur du petit dalet de, enfin du dalet de qui indiquait le paragraphe dont on a commencé de lire. Vous avez dans la colonne de droite donc Ba Hatorah veHakadosh Baruch Hu levarech et Israël. Lui il lit Hakavana demitrilat demitrila bichatan. התורה שיקיימוה להיות זה כל האדם שלא נברא בעולם הזה אלא לעשות ולקיים כל דברי התורה. ואחר כך בירך אותם משה בברכה של עולם הזה שלא יעכב חיסרון הפרנסה מלעשות רצון קונם, ואחר כך בירך אותם הקדוש ברוך הוא בשכר עולם הבא שהיום לעשותם ולמחר לקבל שכרם הרוחני. Bien. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ici? Lui il dit que qu'est-ce que ça veut dire ici que bah Torah et Akadosh Baruch Hu. Alors lui il les met, c'est un peu curieux, mais parce que il les met de part et d'autre de Moshe Rabbeinu. Il dit d'abord c'est la Torah qui est venue. La Torah, elle bénit les Bnei Israël chez Ikaimua. Elle bénit les Bnei Israël pour qu'ils accomplissent la Torah. Je sais que la Adam, parce que ça c'est toute la fonction de l'homme, chez l'onivra ba olamazel ala sot, ou le kayem kol divrei la Torah. L'homme n'a été créé dans ce monde que pour accomplir toutes les paroles de la Torah. Ensuite, c'est Moshe Rabbeinu qui les a bénis. Il leur a donné la bracha pour que dans le monde matériel, le problème de la parnassa ne les empêche pas d'accomplir les mitzvot. Ils ne soient pas pris par leur parnassa au point de ne pas pouvoir faire les mitzvot. Et ensuite seulement, Akadosh Baruch Hu est venu et les a bénis en leur donnant le salaire de Olam Haba, en donnant du sens en quelque sorte, en disant que effectivement aujourd'hui, c'est-à-dire dans Olam Hazé, on a à faire ce qu'on a à faire, et puis le salaire il est dans Olam Haba, il y aura un salaire dans Olam Haba. Donc, la Torah, Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu. C'est un petit peu différent, parce qu'on a vu que Kivan Sheba, le texte lui disait, il dit toujours, Kivan Sheba Moshe levarech Israël, Baou a Torah ve Akadosh Baruch Hu levarech Israël. D'accord? Parce que quand Moshe est venu, alors Akadosh Baruch Hu et la Torah sont venus également. Lui, d'après son explication, la Torah, elle est là avant la bracha de Moshe. La bracha de la Torah est là avant celle de Moshe. Sur cette partie-là, le Marzou, la colonne de gauche, lui, il explique un peu différemment. Bahou à Torah. Alors il explique, il dit, Shayalo lomar vaivarech Moshe et Israël. On aurait dû dire clairement, Vaivarech Moshe et Israël. Moshe Rabbeinu a béni le clan Israël. Pourquoi? Vezot Abracha, Asher Berach Moshe. Ceci est la bracha que Moshe a dite. Alors, il explique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici, Vezot? Et du coup, on prend la suite du verset. Vezot. Moshe Rabbeinu est présenté dans le pasouk. Asher berach Moshe Isha Elokim. Et donc on va. Pourquoi est-ce que Moshe est ici appelé Isha Elokim? Donc le Marzou il dit clairement que ça vient de. Enfin, le Midrash est. En quelque sorte, il est sollicité par la forme du texte de la Torah. Vezot à Torah, au lieu de dire Vezot à Bracha, Asher Berach Moshe, au lieu de dire directement Vaivarech Moshe et Israël. Et puis ensuite, pourquoi Moshe Rabbeinu ici est appelé Isha Elokim? Alors il dit, donc, c'est Miyutar. Ain Tanchuma Kan, Shea Kavana. Le Midrash Tanchuma dit ici, la Kavana c'est que chez Berach Otam Moshe Bezot, il les a bénis avec Zot, Berach Otam Akadosh Baruch Hu Bezot à Torah. Alors Akadosh Baruch Hu les a bénis avec Zot à Torah. On va voir ce que ça peut vouloir dire. Ensuite je reviens sur le Etz Yosef, là, toujours dans la colonne, de nouveau dans la colonne de droite. Im ish lama Elokim, ve im Elokim lama ish. Mashmale milat ish mukhach midloktiv ish Elokim. D'accord, c'est pas marqué ish Elokim. C'est ish ha Elokim. Alors on veut dire, ça fait référence à Kadosh Baruch Hu. Parce que Ha Elohim, c'est Kadosh Baruch Hu. Akavana, Afshehu Elohim, Pashut, Betachlit Apshitut, bien qu'Hachem soit, il est l'Elohim absolu, incomparable, Imkolze ou Kmayachol, Mechune Beshem Ish. Néanmoins, il est nommé. Surnommé Ish. Pourquoi? Yahan ou Mizdakek la Nashim la Ashgiach Alehem ou la Chiotam la Askilam. Parce que Akadosh Baruch Hu s'occupe des gens pour les. C'est une providence, quoi, pour les surveiller, pour les faire vivre et leur faire comprendre les choses. Ça c'est Isha Elohim pour la Drasha. Seulement, la suite du Midrash, elle est un peu étrange à ce moment-là, parce qu'on dit Besha She'aya Ushlach. Lorsque Moshe Rabbeinu, du coup maintenant on explique, c'est ce que dit le verset, que c'est Moshe qui est appelé Isha Elohim. Alors on revient à ça et on dit pourquoi il est appelé Isha Elohim. Parce qu'il avait cette. Lui aussi, il est double, en fait. On vient d'expliquer sur Hachem qu'il a ces deux noms. Il est Elohim, absolument. Et puis il est aussi appelé Ish parce qu'il s'occupe des hommes. Alors, on va dire sur Moshe Rabbeinu aussi, puisque Isha Elohim veut dire deux choses. Alors. Chez Moshe Rabbeinu, ça correspond à deux choses aussi. Lorsque Moshe Rabbeinu avait été jeté dans le Nil, alors il n'était qu'un homme. Et ensuite, il a acquis la stature divine, Elokit. Et ça, c'est comme ils disent, Zemala Niflaa Shenepar Mimida Lemida. Il a passé d'une mesure à l'autre, si on veut. C'était un homme et il est devenu quelque chose comme une créature divine. Shenepar les dames à Elohim. Chez Zéaya, Inyan Elohim les Chanotamaim les dames. Parce que changer l'eau en sang, c'est une démarche divine. Et Tzeich Lomar, ou Beshache Afacho les dames, que nous. Bon, c'est la version. Quand chez Shiko Moshe le Paro le Mitzraim Tochayam, quand Moshe Rabbeinu a enfoncé Paro et l'Égypte dans la mer, là il est. Moshe Rabbeinu, à ce moment-là, il est. Qu'est-ce qu'il est ici? Elohim. Lorsqu'il s'enfuit devant Paro, il est un homme. Déjà, chez Allah, la Rakia, il est Ish. Alors, lui, il explique que, étant donné que les Malachim sont Esh, c'est-à-dire ils sont un feu, ils n'ont, comme il dit ici, Emdekiye Chomer, ils ne sont absolument pas matériels. Alors lui, par contre, il est Baal Chomer, il est matériel, Moshe. Donc il est appelé Ish. Il n'est pas Esh, mais Ish. Ou Be'erech Ha'anashim Nikra Elohim. Mais par rapport aux hommes, il est appelé Elohim. Ki Aya Amiuchad Ma'alato Mehem Ki Lu Nivdal Me'Ainoshiot. Parce qu'avec ses qualités, il était au-dessus d'eux, comme s'il n'était pas humain. Encore un autre davar acher. Quand il est monté au Rakia, il est Elohim. Donc c'est une drasha exactement dans l'autre sens. Vegam al zmanim mitralfim ve'et kabbalat ha Torah ve'et shaya b'makom haya mamash mechune b'shem Elohim ki malachim maron. Quand il était en haut, il est appelé comme tout le monde, Elohim. Et puisqu'il ne mangeait pas, il ne buvait pas, etc. Mais après, il redescend et il redevient Ish. Et on dit donc, Mechetio le Mata, Itachat Libo le Mata, il est Ish. En dessous de son cœur, il est Ish. Aval Milibo le Mala, Ayakulo Kodesh, Kol Marchavat Libo, Veaskalato Aya Elokit. Et Aya Elokit. Et le Marzou donc ici quand il a enfoncé par où il était Elohim mais il était un Ish devant les Malachim puisqu'il est monté au ciel en tant qu'être humain. Mais ensuite, comme quand il est redescendu, les Bnei Israël ont eu peur de s'approcher de lui. Donc il avait un degré, si on peut parler comme ça, qui correspondait à un niveau de Elohim. Et après, on a une dracha dans l'autre sens. Voilà, ça lui dit rien de, me semble-t-il, de plus. Bien. Alors, qu'est-ce que veut ce Midrash? Alors, on a un peu vu que formellement le Midrash est construit pour répondre à la présentation de Moshe Rabbeinu dans le
dans Zot Abraham.
Bon, c'est le passouk qui appelle ce commentaire, parce que le passouk est c'est écrit de façon un peu surprenante. Je vous répète le passouk. Zot Abraha Asher Berach Moshe Isha Elokim et Bnei Israël Lifne Moto. Voici la bracha que Moshe Rabbeinu Isha Elokim. Pardon?
Asher Berach, qui l'a béni?
Oui. Voici la bracha que Moshe Rabbeinu a béni, c'est-à-dire qu'il a, il a béni les Bnei, avec laquelle il a béni les Bnei Israël, Lifne Moto, avant sa mort. Pardon?
Isha Elokim, vous l'avez pas traduit?
Non, Isha Elokim, c'est a priori d'ordinaire quand on parle de Isha Elokim, par exemple, Umkeles, il a traduit Neviya de Hashem, prophète d'Hashem. Bien, alors, évidemment, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce que ce paragraphe ajoute à ce qu'on a déjà vu, à ce que le Midrash a déjà commenté de ce début de verset, enfin, de ce verset. On avance un tout petit peu dans le verset, parce qu'on a déjà parlé de Vezot Abraha. Maintenant, donc, on parle de la... Les mots suivants, quoi. Asher Berach Moshe, Isha Elokim. Pardon? Non. Alors, maintenant, ce qu'il dit, justement, ce que dit ici ce Midrash, là, alors, comment est-ce qu'il introduit ce fil triple ici, il introduit, c'est ce Rav Shmuel Bar Nachman qui dit Kevan sheba Moshe levarech et Israël, ba'u haTorah veHaKadosh Baruch Hu levarech et Israël. Comme Moshe est venu pour bénir le clan Israël, alors la Torah et HaKadosh Baruch Hu sont venus bénir, enfin, oui, la Torah, c'est l'ordre du Midrash, la Torah et HaKadosh Baruch Hu sont venus également. D'où est-ce qu'on l'apprend? Alors, on va essayer de regarder un peu sur quoi le Midrash se fonde. Vezot Abracha, ce mot de Vezot Abracha, hein, qui est complètement inutile, puisqu'on va la donner, la Bracha. Alors, Vezot, le Midrash le met en rapport avec Vezot HaTorah Asher Sam Moshe Lifnei Ibnei Israël. Donc, Vezot, ça fait référence à la Torah. Mais c'est comme si on était en train de dire, ici, enfin, si on veut prendre le verset, si on est en train de dire que quand Moshe Rabbeinu a placé la Torah devant les Bnei Israël, d'accord, il a dit Vezot, c'est ça la Torah que Moshe a placé devant les Bnei Israël. Et donc, réminiscent de ce Vezot, d'accord, il y a le Vezot Abracha. Et donc, c'est comme ça que s'introduit la Bracha. Et de ce point de vue-là, on comprend un peu ce que nous a expliqué l'Etz Yosef, parce que Vezot à Torah, cher Sam Moshe, ça s'est dit au début du Sefer Dvarim, alors que Vezot Abracha, il dit tout à la fin du Sefer Dvarim. Donc, poser la Torah, ce qu'on veut nous dire ici, c'est que la Torah est dans la Bracha. Une partie de la Bracha que Moshe Rabbeinu nous l'ordonne ici est constituée par le Vezot. Bon, Vezot Abracha, c'est-à-dire Vezot HaTorah. c'est-à-dire la Torah qu'il leur a donnée. Alors il faut que, du coup, on est obligé d'expliquer en quoi le fait de donner la Torah est une bracha. D'accord ? C'est clair ? Puisqu'on dit que c'est constitutif de la bracha, et c'est Asher Sam Lifne, cette Torah que Moshe Rabbeinu Sam Lifne Bnei Israël, il a posé cette Torah devant les Bnei Israël. Alors on comprend ce que dit le Etz Yosef, que avant la bracha de Moshe, il y a la bracha de Moshe quand il met la Torah devant les Bnei Israël. Quand on dit la Torah est venue quand Moshe a commencé, ça veut dire quand Moshe prie, enfin, bénit les Bnei Israël, le fondement de la bracha, c'est qu'il a commencé déjà bien plus tôt. Dès que c'était possible, il a béni les Bnei Israël avec la Torah. Parce que le klal Israël dans la version Moshe Rabbeinu, si on veut, c'est le klal Israël de ceux qui ont composé, de ceux qui ont reçu la Torah. Même si on veut appeler les Avot et les Shvatim klal Israël d'avant, eux, ils n'ont pas reçu la Torah. Donc, dès qu'on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu a présenté cette Torah devant les Bnei Israël, ou Samota, il l'a posée devant eux. Alors lui, il explique, le Etz Yosef, que la bracha, c'est de la Torah, c'est que justement, la mitrilat, de mitrila, bichatan la Torah chez Ikaimua. C'est comme si la Torah leur donnait une bracha, qui est la bracha, je vous donne la bracha de m'accomplir. Si vous m'accomplissez, alors vous allez pouvoir faire ce pour quoi vous êtes né. Le klal Israël est né pour accomplir la Torah. Et donc la Torah, quand elle est posée devant les Bnei Israël, c'est comme si la Torah leur disait, voilà, je suis là pour que vous m'accomplissiez, et c'est une bracha, puisque c'est nous dire comment nous devons nous comporter pour réussir dans le monde, pour être à la hauteur de ce pourquoi nous sommes venus au monde. Donc ça, c'est le commencement de la bracha que Moshe Rabbeinu leur a donnée. C'est clair ? Oui.
C'est la Torah qui fait la bracha ?
Non, mais c'est ça, la Torah fait la bracha. C'est Moshe Rabbeinu, en fait. Asher Berach Moshe, c'est Moshe Rabbeinu qui fait la bracha. Mais la bracha, elle a commencé par être la Torah que Moshe Rabbeinu a posée devant eux. Alors la Torah les bénit, ça veut dire la Torah, elle est la bénédiction. Parce que pour pouvoir bénir, il faut être le maître de la bénédiction. Personne n'est maître des bénédictions. Mais par contre, la Torah, elle est maître des bénédictions, puisqu'elle te dit, qu'est-ce que c'est qu'une bénédiction ? C'est ce qui va te permettre de te multiplier, c'est-à-dire ce qui va te permettre d'être plus que ce que tu es. Bon, c'est ça, une bracha. Pouvoir se dépasser. Comment peut-on se dépasser ? Comment est-ce que je pourrais faire des actes qui seront plus importants que les actes que je pourrais faire de moi-même, en quelque sorte ? Bon, il s'agit ici d'actes que la Torah me prescrit. Et étant prescrits par la Torah, ils sont, puisqu'on sait très bien que je pourrais créer le monde en regardant la Torah, donc ces actes que la Torah me demande de faire, c'est les actes qui sont mon plan à tous les sens du terme, c'est-à-dire c'est ce qui me prend au maximum en compte et qui me permet de m'épanouir au maximum, qui me permet d'arriver à faire ce pourquoi j'ai été créé. Une fois qu'ils ont eu la Torah, qui est le commencement de la bracha, alors ça c'est Vezot HaBracha. Ensuite, comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu lui aussi vient dans le tableau, en quelque sorte? Asher Berach Moshe, ça c'est Moshe. Ça c'est déjà Moshe. Asher Berach Moshe. זאת, וזאת הברכה אשר ברך משה. משה רבינו הבני לכלל ישראל. Voilà. Ça c'est Moshe. Et ici Moshe est appelé Isha Elohim. Alors le problème c'est que Ish avec quelque chose d'autre, Ish de quelque chose, c'est, cette formule là elle existe par exemple dans Ish Naomi. D'accord? Donc on dit d'Elkana, de oui? Non, pas Elkana. Comment il s'appelait?
Boaz.
Non. C'est le mari de Naomi. Elimelech. Ouais. Donc c'est Elimelech qui est Ish Naomi. D'accord? Lui, il est l'homme de Naomi. L'homme de, par rapport à une femme, c'est son mari. Ish ha-Elohim, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ish de-Elohim, mais c'est pas Ish Elohim. Là, on pourrait presque dire, si Elohim était un nom, alors on pourrait dire Ish Elohim comme on dit Ish Naomi. Mais c'est pas comme ça, c'est Ish ha-Elohim. Alors, Zeh HaKadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué. Hachem, donc Akadosh Baruch Hu, est appelé Ish Milchama. Alors c'est pas très glad parce que c'est pas très clair, parce que c'est pas marqué Ish Milchama. Bon, c'est écrit Ish Milchama. Mais que Hachem est appelé Ish, au sens de celui qui a la puissance de. Alors, c'est toute l'expression qui, pour l'instant, fait référence à Hachem.
Parce qu'on a un doublon, là. Il y a Ish qui serait Hachem, et Elohim qui serait.
Oui, mais non. Isha Elohim, pour l'instant, c'est cette expression-là, elle est dite. Oui, mais pour l'instant, Ish Milchama, on sait seulement que Akadosh Baruch Hu est appelé Ish, mais dans ce cas-là, ça n'a pas de sens de dire Isha Elohim, c'est un redoublement. D'accord, si... On n'a pas besoin d'Elohim ici. Mais si Elohim voulait déjà dire Hachem, d'accord? Si c'est déjà ici un nom divin, alors Ish, on n'en a pas besoin, c'est au contraire Ish, l'expression Ish Elohim, elle nous trompe, elle nous dérange, parce que dans Ish Milchama, c'est dire que Hachem s'est montré comme étant le Ish Milchama, le maître des batailles, le maître de la guerre. Mais ici, comment est-ce qu'on peut dire Ish HaElohim? Le maître de quoi? Il est le maître. C'est un peu difficile à dire. Alors c'est ce que dit le Midrash, il dit on ne comprend rien. Amar Rav Tanchuma. Mais c'est déjà dans un davar acher. Le Tanchuma il dit, Rav Tanchuma il dit, Im Elohim lama ish ve im ish lama Elohim. Mais lui il va expliquer ça sur Moshe. En disant que c'est Moshe qui est appelé Isha Elohim. Et il n'explique pas le Hei non plus. Toute la fin, elle va sur le Davar Acher de Rav Tanchuma. Il n'utilise pas du tout que Isha Elohim, c'est Hachem. Pour lui, c'est simplement qu'est-ce que ça veut dire que Moshe Rabbeinu est appelé Isha Elohim. Lui, il a pas, il s'occupe pas de ça, lui. Pour lui, il veut seulement savoir pourquoi Moshe Rabbeinu, semble-t-il. On verra après si on peut le rattacher quand même, puisque quand, je ne sais pas qui est-ce qui a décidé que ce Davar Acher il coupait. Qui est-ce qui a décidé les paragraphes? Pourquoi on a arrêté le... Il y a d'avant à faire, il y en a 5 ou 4 ou 5 là-dedans. Pourquoi on n'a pas compté chacun comme des paragraphes différents? Pourquoi on a décidé que, bon, alors tout cela, Vezot Abracha sur la suite, et le numéro 5, il commence sur l'Ifne Moto. C'est la fin du verset. Mais là, on a aussi un davar acher, donc on pourrait dire c'est autre chose. C'est une autre dracha. Qui n'est pas obligatoirement hein, du même ordre que je veux mettre en avant un autre aspect des choses. Mais nous, on n'est toujours pas sortis de l'auberge parce que quand on disait Akadosh Baruch Hu Neymar, Hashem Ish Milchama, Vekol Kach Lama, Le Kayem Hashem Neymar, Achut Amshulash Lo Bimera Inatek. Pourquoi est-ce qu'il y en a, pourquoi ils se sont mis à trois pour cette bracha? Pour que la bracha soit solide. D'accord? Pour que c'est un fil, c'est les composés, c'est un pasouk qui dit que Achut Amshulash, quand un fil est fait avec trois filins torsadés comme ça, hein, ils ne se rompent pas. Alors revenons sur Hachem, le Isha Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, lui, dans le Etz Yosef, qui lui s'est attaché à essayer d'expliquer cet Isha Elohim, lui, il a dit qu'Akadosh Baruch Hu vient ajouter la bracha du Olam Haba. Achakar birech otam Akadosh Baruch Hu bischar Olam Haba bischar Olam Haba sheyayom la'asotam lemachar lekabel scharam aruchani. Qu'est-ce que ça a à voir ici? C'est un peu difficile. Alors essayons de faire ce qu'on a fait précédemment. On a essayé d'utiliser Ish Milchama, donc enfin, l'équivalent de Hashem Ish Milchama. Après que Moshe Rabbeinu, après que la Torah apparaisse comme la bracha, puisqu'elle nous dit ce qu'il faut faire, après que Moshe Rabbeinu ait donné sa bracha à lui, on ne sait pas quel aspect Moshe Rabbeinu a mis en évidence. Ayant déjà donné la Torah, qu'est-ce que c'est que cette bracha de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que ça apporte de plus ici? Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va leur dire dans la bracha? Qu'est-ce qu'il va leur qu'est-ce qu'il donne de plus que la Torah qu'il leur a déjà donnée en fait? Alors il va donner une bracha, Yechi Reuven, ou Levi Amar Tumecha Vourecha, Yishfasidecha, etc. Yehuda, il va donner sa bracha, Yosef, Binyamin, Yedid Hashem, l'ami d'Hashem, Yosef, son pays est béni, etc. Zvouloun, tu vas sortir, c'est celui qui va aller pour... Il va gagner sa vie en quelque sorte, et Issachar va rester dans sa tente. Donc, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur donne ici? Il leur donne une bracha pour que ce qu'ils vont faire, ils le fassent bien. On a l'impression. Ça, c'est déjà ce que Yaakov avait déjà dit. Oui, il donne une bracha pour que les choses se passent bien. Hachem les bénisse. Il demande que Hachem les bénisse. Dans Olam Hazeh, c'est ce que le semble-t-il que l'Etz Yosef a voulu dire, que Moshe Rabbeinu leur a donné une bracha pour qu'ils ne soient pas mangés par leur parnassa. Shelo Yaakev, Chisaron Aparnassa, Milasot Retson Konam. Que le problème de la parnassa, le problème de la. De gagner sa vie en quelque sorte, ne les trouble pas au point de les empêcher à faire de faire les mitzvot. Tout le Olam Hazé, d'une certaine manière, Yaakov l'a donné à Esav. Il a donné le pouvoir sur Olam Hazé. Ah, ça, il l'a reçu. Il lui a donné. Ouais. Ça, cette bracha, il l'a reçu et. Enfin, il en a donné beaucoup à Esav, juste d'avoir tout donné, presque. Il s'est prosterné sans arrêt contre lui, il donnait Adoni.
Ah, quand il est revenu. Quand on dit, je ne comprends pas très bien en fait, que le matériel ne leur manque pas.
Oui.
Mais moi je pensais que justement, celui qui a les richesses matérielles, c'est pas Yahweh.
Non, mais il ne dit pas qu'il ne leur manque pas. Voilà. Il dit qu'il ne leur manque pas pour pouvoir faire la Avoda. Donc ça les empêche pas, ce problème ne les empêche pas au point de ne pas pouvoir faire la volonté de la chaîne. Peut-être que ça vient compenser justement tout ce que Yaakov a donné à Esav. Puisque maintenant on est dépendant d'Esav quasiment dans le fonctionnement du monde. Alors Moshe Rabbeinu a voulu dire, au moins, on va limiter les dégâts, qu'au moins ça ne vous empêche pas de faire la volonté de la chaîne. Vous n'aurez pas l'abondance, etc., que quelque part Yaakov l'a quasiment donné Olam Hazé à Esav, mais au moins que ça ne vous empêche pas de faire la avoda, de faire la volonté de Hachem. Maintenant qu'est-ce que alors lui ensuite il dit, alors maintenant Hachem vient dire, il vient leur promettre le salaire, c'est-à-dire mais alors finalement tout ce que vous allez faire, puisque vous n'en aurez pas de profit dans ce monde-ci, donc on pourrait se décourager en quelque sorte. Dire, mais à quoi ça sert tout ce travail, puisque on n'en tirera rien. Alors, Hachem vient dire, il y a Olam Haba, et dans Olam Haba, vous aurez le salaire de ce que vous aurez fait. Donc le Midrash ici présente Akadosh Baruch Hu comme celui qui annonce qui complète le triplet, comment il est constitué de ce qui est nécessaire pour enfin, les conseils en quelque sorte. Donc, de la Torah elle donne les conseils, peut-être des consignes aussi, mais les conseils et les consignes pour savoir ce qu'il faut faire. Moshe Rabbeinu leur donne une bracha pour qu'ils arrivent à le faire malgré le problème de la parnassa. Et Akadosh Baruch Hu dit, vous aurez un salaire, il leur promet un vrai salaire dans Olam Haba. Alors, pourquoi ils l'auront ? Alors, peut-être qu'il n'y aura pas s'il n'y avait pas Olam Haba. Mais d'où on sait, c'est ça justement, il dit que ça vient quelque part, c'est là. Tu sais bien que Olam Haba n'est pas marqué dans la Torah explicitement. Alors, c'est dans la Torah, mais pas explicitement. Il se trouve que c'est justement une des sources qu'on a, c'est le Az Yashir Moshe. D'accord ? Qui est justement le passage de la mer, le cantique qui a été chanté au passage de la mer. Et le verset de référence à Hachem ici, c'est Hachem Ish Milchama, c'est cette Shira, c'est la Shira Tayam. Donc le Midrash, il est allé prendre Akadosh Baruch Hu ici comme étant Ish Milchama, c'est-à-dire il s'est manifesté pour protéger les Bnei Israël, pour les faire faire en sorte qu'ils gagnent en fait, qu'ils ne soient pas anéantis par l'armée égyptienne, qui était évidemment beaucoup plus forte qu'eux. Et pour ça, il les a quasiment fait vivre. N'est-ce pas ? Kriyat Yamsouf, c'est bien, en fait, une forme de passage dans Olam Haba. Entrer dans la mer jusqu'à plus pouvoir respirer. Ensuite, la mer s'ouvre. Je ne sais pas si vous savez, c'est pas d'habitude, la mer, elle ne s'ouvre pas. Et donc, quand la mer s'est ouverte, quelque part, leur passage dans la mer et en ressortir, c'est d'une certaine façon entrer dans un nouveau monde. Ils sont entrés dans un autre monde, un monde où il n'y avait plus d'Égypte. N'est-ce pas ? C'est un monde où ils sont vraiment sortis d'Égypte. Et donc, cette sortie d'Égypte, c'est entrer dans ce nouveau, dans un nouveau monde, dans un Olam qui est Olam Haba, c'est-à-dire Hachem a montré, elle leur a montré comment on pouvait, disons, bénéficier d'un accès à un autre monde. Alors, vous avez accès, je vous donne accès à ce nouveau monde, à cet autre monde dans lequel vous aurez tout ce qui vous a été promis. Mais maintenant, à la sortie d'Égypte, ça a été fait gratuitement. Sortie d'Égypte, bon, ils sont passés la mer, ils n'avaient pas beaucoup de mitzvot, jusque-là, quasiment pas. Et maintenant, à la fin des temps, c'est par le biais des mitzvot, c'est-à-dire ça viendra là comme un salaire. C'est important que ce soit un salaire à cause de Naama de Kisufa, à cause du pain de la honte. D'accord ? C'est-à-dire qu'on reçoit les choses comme si on les avait gagnées par la suite de notre travail et pas gratuitement, alors que quand on reçoit gratuitement, ça fait honte. Celui qui reçoit les choses sans qu'il ait rien fait pour. Donc ici, il faut ajouter l'intervention divine, en quelque sorte, qui donne quelque chose qui visiblement n'est pas encore donné par la Torah, que Moshe Rabbeinu leur a donné, qui n'est pas donné non plus par la bracha que Moshe leur a donné, et c'est un nouvel élément, une nouveauté. Une nouveauté qui date justement de Kriyat Yam Souf. Hachem a accepté de jouer ce rôle-là. Il a accepté de faire en sorte que nous puissions accéder à cet autre monde, un monde qui n'est plus le monde de l'esclavage. Il nous a sortis définitivement d'Égypte. L'Égypte est morte et les Bnei Israël vivent de l'autre côté de la mer. Donc cette idée de on est sorti d'Égypte vraiment pour un Olam Haba, pour un monde à venir. Alors il a son sens habituel, le mot Olam Haba. Alors pourquoi est-ce que c'est une bracha? En quoi est-ce que c'est une bracha? Lui dit Ayom, parce qu'il applique le dicton qui dit que Ayom la asotam ou machar le kabel sraram. Aujourd'hui, c'est-à-dire dans Olam Hazeh, on a à faire les mitzvot, et le salaire des mitzvot, on l'aura dans Olam Haba. Ayom, c'est comme Erev Shabbat, Mishetarach ve'erev Shabbat, Yochal le Shabbat. Celui qui a fait des efforts, il a travaillé avant Shabbat, pour préparer le Shabbat, il aura de quoi manger. Si on ne prépare pas, on n'a pas de quoi manger Shabbat. Parce qu'on ne peut pas cuire, on ne peut pas. On va faire à manger Shabbat. Donc il faut l'avoir préparé avant. Dans Olam Haba, parce que Shabbat c'est Mehen Olam Haba, dans Olam Haba aussi, on n'aura que ce qu'on aura préparé. Mais on aura quelque chose. Et ça c'est la bracha en question. Il y aura. La bracha c'est une multiplication, mais ici c'est une multiplication, comment si vous voulez, transcendante, au sens où elle permet de sortir de ce monde. Jusque-là, les brachot pouvaient être entendus comme des brachot pour fonctionner dans ce monde. Parce que que Moshe Rabbeinu leur a donné, c'est une bracha pour leur permettre de fonctionner comme ils doivent fonctionner dans le monde. La Torah leur donne des conseils, consignes, pour savoir comment vous allez pouvoir vous épanouir dans ce monde, comment vous allez pouvoir faire. Voilà ce qu'il faut faire dans le monde. C'est comme ça, vous êtes créé pour faire certaines choses dans le monde. Voilà ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas deviner tout seul. Cette solution de trouver tout seul, qui était la solution d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, celle-là, elle a échoué. Maintenant, vous ne pouvez pas trouver tout seul. On vous donne, on vous donne la Torah. Donc la Torah se présente comme une bénédiction. Et Hachem ici aussi, Berach. Donc dans la bracha de Moshe Rabbeinu. Alors ici c'est un petit peu difficile parce que en quoi est-ce que c'est inclus dans la bracha de Moshe Rabbeinu? Qui vient chez Moshe parce que Moshe est venu. Alors nous on a expliqué la Torah, comment elle était incluse dans la bracha de Moshe Rabbeinu, puisque le commencement de la bracha c'était ça. Alors maintenant cette dimension là elle est difficile à comprendre. Parce que comment est-ce qu'elle est incluse dans la bracha de Moshe Rabbeinu? Alors je crois que ça vient de ce que s'est présenté du nom Ish à Elohim. Ish à Elohim, comme va l'expliquer le Rav Tanhuma, ça veut dire deux choses. C'est à la fois Ish et à la fois Elohim. Dans certaines circonstances, Ish, dans d'autres, Elohim. Et donc, comment est-ce que dans la bracha de Moshe Rabbeinu, il peut y avoir cette dimension de Olam Haba? Eh bien, parce qu'il est Ish et Elohim. Parce qu'il est Elohim. Quand est-ce qu'il est Elohim lui-même? Quelque part, lui, Moshe, le Shiko, lorsqu'il il enfonce Paro dans la mer. Il est Elohim, n'est-ce pas? Lorsqu'il est jeté, lui, comme enfant dans la mer, enfin dans le Yor, dans le Nil, alors il est Ish, c'est un homme. Beshachene, par le Dam, lorsqu'il transforme, tout ça c'est sur l'ordre d'Hachem, mais le Tanhuma, il a pas peur de. C'est même un peu curieux, il présente tout ça comme si c'était Moshe Rabbeinu qui l'avait fait de lui-même. Mais il dit pourquoi? Parce qu'il est Isha Elohim. Parce qu'il y a des moments où il est quasiment Elohim. C'est lui Elohim. C'est marqué, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu seras, Aaron sera ton porte-parole, et toi tu seras son Elohim. Toi tu seras son Dieu. C'est-à-dire, tu seras son inspirateur. Après, il était aussi comme une divinité, enfin comme des êtres complètement éthéré, bien qu'il ne le soit pas, bien qu'il soit côté Ish. Et ensuite, d'avaracher, bechache, barach, lifne, paro, autre lecture. Quand il s'enfuit, parce qu'il a été dénoncé, il s'enfuit de devant paro, Ish, c'est un homme. Mais, bechache, chikho, par contre, quand il enfonce paro, dans la mer, sous-entendu, il est Elohim. Donc à ce moment-là, au moment où lui il explique que c'est d'une certaine manière c'est Moshe qui enfonce Paro dans la mer. On sait bien que c'est Hachem qui l'a. Hachem, Ish Milchama, etc. Ben oui, mais ici c'est marqué Isha Elohim. Quelque part, c'est comme si on était en train de nous dire, tu sais, quand on a dit que c'était Hachem qui faisait les choses elles se faisaient par Moshe Rabbeinu. Mais par le côté Elohim de Moshe Rabbeinu. Pas du tout que Moshe Rabbeinu soit une divinité, bien entendu. Ah, c'est chouette de penser une chose pareille. Mais Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu, ici d'après ce Midrash, quasiment une double nature. Parfois il est comme ci, parfois il est comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu aussi présente des fois ce visage-là et des fois un autre visage. Et à la limite, ben vous aussi, hein. Il y a des moments où vous avez un certain visage et des moments où vous en avez un autre. Ouais, ouais.
Oui. Est-ce qu'on va dire que lorsque vous cherchez à nous, il a péché tout, c'est qu'il apparaît en fait, Dieu, propre comme un pied.
Oui. Il apparaît. Oui, mais c'est très très dangereux. Mais en fait, ce que dit le Midrash, c'est un peu plus que ça. Le Midrash dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui est venu. Pourquoi? Parce que c'est marqué Isha Elohim. Et peut-être, effectivement, que si c'était marqué seulement Ish Elohim, on n'aurait pas osé le dire, on n'aurait pas pu le dire. Mais ici, peut-être que Ish Ha Elohim partage beaucoup plus que vraiment. C'est pas que mon cher Rabbeinu soit une divinité, bien entendu, c'est pas le cas. Mais ce qui se passe, c'est que comme il y a deux aspects de la personnalité de Moshe Rabbeinu, et que au moment, et comme il y a deux aspects de la personnalité d'Hachem, si vous voulez, on va peut-être dire comme ça, regardez ce que fait le Midrash. Il dit, quand Moshe Rabbeinu enfonce Paro dans la mer, il est appelé Elohim. Et quand Hachem se manifeste au moment de la mer, il est appelé Ish, Ish Milchama. Quelque part, c'est comme s'il y avait une espèce de rencontre entre Hachem qui se présente comme Ish, comme un être, comme un homme, et Moshe Rabbeinu qui se présente comme un Elohim. Où est-ce que ça a lieu, cette rencontre? Dans la mer. Au moment de Kriyat Yamsouf, c'est-à-dire au moment où, au fond d'eux-mêmes, les Bnei Israël reçoivent cette émouna dans Olam Haba. Puisqu'ils vont chanter Az Yashir Moshe. Donc, c'est là que dans la Torah est écrit Olam Haba. Puisque Moshe chantera au futur. Il chantera, ça veut dire chantera, pas qu'il a chanté, mais il chantera. C'est-à-dire, le futur, c'est Olam Haba. C'est Olam Haba mina Torah minaïn, ou Triat Hametim, c'est de ce Asia Shir Moshe. On avait vu en son temps dans Chelek que la Gemara elle avait l'air de dire certaines fois Triat Hametim et d'autres fois Olam Haba. On peut sûrement zoomer plus finement, mais enfin. Et donc c'est à ce moment-là justement où au fond d'eux-mêmes, c'est-à-dire dans ce qui va chanter en eux. D'accord ? Donc c'est, là, ils sont inspirés. Au moment où ils sont inspirés, à ce moment-là, ils disent quelque chose qui est l'annonce, si on peut parler comme ça, dans la Torah, l'annonce fondamentale. C'est fondamental que ce soit dans la Torah. Parce que la Gemara dans Chelek, elle dit, celui qui dit « Yesh Triat Hametim » mais ce n'est pas marqué dans la Torah. Et le chalek l'anam haba. D'accord ? Il faut être ma'amin qui a triat hametim et que c'est écrit dans la Torah. C'est écrit sous la forme, par exemple, de Az Yashir Moshe. Donc, ce que on va dire ici, c'est que Moshe Rabbeinu, ici, quand il donne cette bracha au clan Israël, comment est-ce qu'il faut dire là? Dans Moshe Rabbeinu, si on peut parler comme ça, il y a à la fois la Torah et Akadosh Baruch Hu qui se manifestent. C'est pas nouveau qu'Hachem se manifeste en Moshe Rabbeinu, puisque Hachem parle par la bouche de Moshe. C'est la parasha de cette semaine. Hachem dit à Moshe et à Aaron, Ya'an lo emantem bi la gdisheni, d'accord? Vous n'avez pas parlé ma bouche. Vous auriez dû C'est marqué sur Aaron. C'est marqué Yasef. Yasef Aaron et la Mav, qui l'oya vo el aaret sacher natati livne Israël, al asher meritem et pi, le même riba. C'est-à-dire, c'est un mot très fort, meritem et pi. La shon meritem, c'est-à-dire vous avez, vous êtes révolté, vous avez fait faire la guerre contre ma bouche, dit Hachem. Sur Aaron, c'est écrit. Dans le pasouk, c'est écrit. Mais meritem, c'est un pluriel. C'est les deux. C'est sur les deux. Mais c'est écrit. Cette phrase-là, et pi, c'est écrit chez Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire? On fait la guerre contre la bouche d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'ils auraient dû parler. Et leur parler, c'était. Le parler de Moshe et d'Aaron à ce moment-là, c'était. Servir de bouche à Hachem. Et puisqu'ils n'ont pas parlé, ils ont frappé. Donc vous avez fait la guerre contre ma bouche. Vous vous êtes refusé à être ma bouche. C'est très très fort l'expression ici. Alors là aussi, donc Moshe Rabbeinu, il est la bouche d'Hachem, littéralement. On dit Ashrinam daberet mitor grono shel Moshe. La Shrina, elle parle à travers l'organe vocal de Moshe.
Et là, en fait, Moshe Rabbeinu, il est là. C'est pas seulement la bouche, c'est quand on appelle Moshe.
Oui, mais. Mais ce que je voulais. Oui, mais. Ici, on voit très bien que. À un certain moment, Moshe Rabbeinu, il est, quand on dit il est la bouche d'Elohim, quelque part, il est Elohim. Elohim, il n'a pas de bouche ni autre chose. C'est pas qu'il est seulement la bouche. Non, c'est pas un côté vraiment divin. C'est il y a des aspects qui ressemblent par rapport au la fin du Midrash, c'est seulement par rapport aux autres gens, il apparaissait comme divin. Mais ici, lui, il dit un peu plus fort. Ce midrash-là, qui est d'ailleurs assez elliptique, puisqu'il s'arrête là, cette partie du midrash, s'arrête, il dit voilà, c'est à cause de beaucoup. Hachem ish milchama, point bas. Et alors, du coup. On a. Bon, alors, on dit pourquoi. Mais Kolkach Lama, qu'est-ce qui dérange? Le Midrash, il s'étonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça dans cette bracha? Pourquoi il en faut tellement? Yaakov, il a donné la bracha. C'est pas marqué que quand Yaakov a parlé, quand Shbuchu était présent, etc. Ici, Moshe Rabbeinu, il donne une bracha. Bon, c'est déjà le grand Moshe Rabbeinu qui donne une bracha. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non, c'est. Alors on dit parce que Achutam Shulash, c'est une expression qui revient tout le temps. Achutam Shulash, les triplets sont très puissants d'ailleurs. C'est un trépied, c'est la stabilité. Le triplet, c'est fort. Par exemple, on dit que pour Piria Verivia, il faut avoir 3 générations. Il ne faut pas seulement avoir des enfants, mais il faut avoir des enfants qui eux aussi ont des enfants. On va faire la mitzvah en réalité. La mitzvah n'est faite, ça ne dépend pas de nous. D'accord, mais quand j'ai fait la. Pour pouvoir dire je me suis vraiment acquitté de la mitzvah, c'est seulement quand mes enfants ont aussi eu des enfants. Bon, ça fait 3 générations et c'est ferme. Et la Torah, toute la chazaka, tous ces inyanim de 3, toujours ici, à Chotam Shulash. Ça, c'est toujours Shlomo Ameler qui dit ça dans Kohelet. Il dit que le fil triple, en fait. Il ne se casse pas, il est solide. Bon, mais est-ce que c'est suffisant? D'accord, c'est très bien, ça, c'est solide. Donc on a, d'après ce qu'on a essayé d'expliquer, le triple fil, là, il est entièrement dans Moshe Rabbeinu. C'est Moshe qui est à lui tout seul quasiment le triple fil. La Torah, c'est la Torah Asher Sam Moshe, et c'est lui qui est Ish Ha'Elokim, c'est-à-dire en fait, il y a une rencontre de Ish et de Ha'Elokim qui se fait à l'endroit où justement on annonce Olam Haba, c'est-à-dire la transcendance, elle se fait justement à un endroit où Ish et Elohim semblent se rencontrer. À ce propos de cette rencontre, il y a une Gemara dans Souka, elle parle justement de Hanor, d'Eliyahu Hanavi qui sont montés au ciel. La Gemara dit ils n'ont jamais dépassé dit Fahim, jamais dépassé 80 cm. Alors, et la Gemara dit c'est marché qu'Akadosh Baruch Hu il est descendu sur terre, etc. Il n'a jamais descendu en dessous de dit Fahim. Quelque part, dit Fahim, vous connaissez ce que c'est, vous savez bien ce que c'est. Dit Fahim, c'est la hauteur de oui, mais c'est le Roshut à la hauteur de la Roshut, non, le Roshut Yachid va la Rakia, c'est la hauteur de Roshut Arabim. Au-dessus de Roshut Arabim, c'est plus au-dessus de Dit Fahim, c'est plus Roshut Arabim. Ça veut dire il y a un endroit où quasiment ils peuvent se presque toucher. Et ça ressemble beaucoup à ça, Ish Ha'Elokim. Ça fait beaucoup penser à cette rencontre, en quelque sorte, ou du Ish et de Elokim. Mais tout ça, ça se passe à la mer, où c'est Hachem Ish Milchama, et Moshe Rabbeinu qui est appelé Elokim, ici dans ce Ha'Elokim. Et donc on a cette espèce de collision, presque collision, mais c'est la transcendance, parce qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est pas vrai. Comme on dit, même Hachem n'est jamais descendu et eux, ils ne sont jamais montés. Fini. Il n'y a pas de psukim. La Gemara, elle est intraitable. Pas du tout. Ça, c'est Hachem, il l'a fait descendre et tout. Il explique, etc. Mais pas du tout. Il ne s'est rien passé. Ça n'a jamais. Donc, j'ai l'impression que c'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça apporte à la bracha de Moshe Rabbeinu? Justement, ça apporte énormément parce que ça nous dit qu'est-ce que c'est que la bracha. La bracha, c'est d'abord la Torah, c'est ensuite la parnassa, pour que la Torah soit praticable, et la transcendance. La bracha, c'est d'avoir accès à plus que ça. C'est ça la bracha. Et alors, de ce point de vue-là, bon, on a vu pratiquement tout ce qui était déjà dit ici. Donc, alors, si on regarde la première des brachot que Moshe Rabbeinu a donnée, celle qu'il a donnée à Reuven, qu'est-ce qu'il lui donne comme bracha, hein? Yechi Reuven. Valiamot. Bon, n'est-ce pas la bracha, hein, c'est d'abord c'est la vie. Non? Valiamot. Vimetav mispar, et que ses morts soient limités en nombre. Vivre, c'est. Yechi Reuven ba'olam hazeh, dit Rashi. Va'al yamot le'olam haba. Alors, c'est quoi? C'est que shelo yizacher lo ma'aseh bila. Qu'on ne lui rappelle pas ce qu'il a fait avec Bila. Sinon, ça pourra lui faire perdre olam haba. bon, de s'être mêlé de la vie conjugale de son père, ça pourrait lui faire perdre Olam Haba. Alors, Moshe Rabbeinu nous donne une bracha qu'on ne s'en occupe plus, qu'on ne lui en tienne pas rigueur. Donc, Moshe Rabbeinu lui efface. Moshe Rabbeinu efface cette histoire à Reuven. Pardon ? Bien sûr qu'elle a fait tchouba. Je ne peux pas te dire autre chose que ce qui est dans Rashi ici. Et ce qui est très surprenant ici, et presque incompréhensible, c'est que la bracha qui s'adresse à Reuven, ça ne s'adresse pas au bonhomme Reuven. Reuven, il n'est plus de ce monde. Quand Moshe Rabbi nous parle, c'est le bonhomme Reuven qui a fait la faute. Pardon ?
C'est la fêlure.
Ça veut dire quoi ? Dans toute la tribu de Reuven, il reste cette marque du problème Bila. C'est énorme. Ce qui est en cause, quoi, il est pas, on ne parle pas du bonhomme Reuven, on parle de la tribu de Reuven. Enfin, l'Isacherlo, pourquoi on lui rappellerait à des gens qui sont à des générations de Reuven, on le rappellerait ce que Reuven a fait. Il a fait avec. Bon, il a fait une faute, bon, ok, tout le monde peut faire des fautes. Il a fait tchouva, comme tu dis. Pour qu'il ait part au Olam Haba, il faut qu'il lui fasse ça. Pour que Reuven puisse, la Shevet Reuven puisse avoir part au Olam Haba, il faut effacer ça du patrimoine spirituel de Reuven. Ça, c'est une chose que j'ai pas bien compris. Bon. Jusqu'où ça va, cette histoire-là? Ça va, je crois, jusqu'à la fin des temps. Parce qu'à la limite, pour que Reuven, la tribu de Reuven, n'ait pas part en tant que telle au Olam Haba, ça voudrait dire que dans toute la tribu de Reuven, jusqu'à la fin des temps, ils n'auront pas part. Donc jusqu'à la fin des temps, on va tenir rigueur à la tribu de Reuven de ce que le bonhomme Reuven a fait. En tout cas, Moshe Rabbeinu lui donne bracha. Qui vivent et qui vivent dans les deux mondes. Qui vivent dans ce monde de Olam Hazé et aussi, donc, qui est pérennité de la tribu de Reuven. Comme si la tribu de Reuven, c'était pas sûr du tout qu'elle pourrait survivre là, dans ce monde-ci. Pourquoi ? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ce que mon cher Rabbeinu a donné à chaque tribu, en fait, il l'a donné à tout le monde aussi. Simplement, chaque tribu est dépositaire d'une partie particulière, enfin d'une partie de la bracha. Comme, si vous voulez, comme le problème de... Vous quittez déjà ? Ah bon. Oui, comme Pessah par exemple, c'est Zman Chérotenu. On est libéré toute l'année, on doit vivre comme des gens libres. Mais pour pouvoir vivre de façon libre toute l'année, il a fallu avoir un point culminant chaque année, un rappel de ce Zman Chérotenu qui ensuite diffuse sur tout le reste de l'année. Donc ici, Reuven, c'est lui le problème, lui a le problème de la vie, semble-t-il. Comment vivre ? Vivre dans ce monde-ci, vivre dans le monde à venir, c'est un problème, puisqu'il a fallu que Moshe Rabbeinu lui donne une bracha. Bon, essentiellement, c'est ça, il n'a pas d'autre bracha. La bracha, c'est ça, qu'ils vivent dans les deux mondes.
Et une autre façon, en inversant les choses,
Enfin, ce n'est pas tellement difficile dans la mesure où, si vous regardez un peu autour de nous, les peuples de cette époque, il n'y en a plus aucun. Il n'y a plus aucun peuple. Il n'y a plus de... Non, alors ça veut dire qu'il a bien fallu quelque chose d'extraordinaire, et cet extraordinaire, il se dit, promesse d'Hachem ou un vote. Non, mais ils étaient très grands, mais même si on peut pas, on a du mal à se représenter leur grandeur, bien sûr. Mais si vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est regardez maintenant tout ce qu'on peut faire. Partons de la situation qui est la nôtre aujourd'hui. On part de ce qu'on a concrètement devant nous, ce que nous sommes, c'est-à-dire l'histoire qu'on connaît. Et effectivement, on voit que ça s'est passé comme ça. On voit qu'effectivement, tous les peuples de l'époque ont été détruits. Le clan Israël, qui était de loin pas la puissance dominante de l'époque, non seulement elle a survécu, mais elle a quand même elle a marqué l'histoire des nations, le développement de la pensée, etc., de façon non négligeable, sans commune mesure avec le volume que le clan Israël occupe dans l'histoire. Bon, alors c'est... Vous pouvez commencer par dire, c'est ça que j'appelle promesse d'Hachem. Ça, c'est la résultante d'une promesse d'Hachem. J'appelle promesse d'Hachem que je vois à l'œuvre cette situation-là. Alors, depuis quand ça commence? Ça commence depuis le début. Alors, nous disons, nous avons une Kabbalah qui nous dit, voilà, depuis le début, et le problème, l'idée, c'est que personne ne peut se dire, c'est grâce à moi. Personne ne peut dire qu'il a mérité de vivre si, au sens de, au niveau du klal. Le klal ne peut pas dire que, le klal de, c'est-à-dire, une génération ne peut pas dire, j'ai mérité par moi-même de vivre. Non. T'as pas mérité de sortir d'Égypte. T'as pas mérité, c'est toujours les promesses. La promesse que Hachem a fait au Avot. Parce qu'effectivement, il n'y a pas tellement de raisons. Pourquoi est-ce que on serait sorti d'Égypte? Personne n'est jamais sorti d'Égypte. On n'était pas, on n'avait pas de quoi mettre l'Égypte à genoux. Comme on voit ici, ce qui s'est passé au passage de la mer, c'est quelque chose de totalement incompréhensible, c'est-à-dire inexplicable. Mais c'est quand même la juxtaposition de ce Ish Milchama, d'Hachem comme, qui se présente comme Ish, et de Moshe Rabbeinu qui, à cet endroit-là, est Ha'elokim. Voilà. Donc c'est ça la nouvelle, ce que ce paragraphe nous apporte de nouveau, me semble-t-il, dans la bracha. On va en rester là, je crois.
Jeudi 3 septembre, oui. C'est HM.